Alors, on va rendre grâce ensemble. Père Céleste, merci de nous avoir adressé cette parole vivante au travers de Jésus. Merci de la faire vibrer dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Merci de nous donner le discernement, l'intelligence, comprendre, accueillir, accepter ta parole. Merci parce qu'elle est quelque chose de solide sur notre chemin. Merci parce qu'elle est puissance de Dieu et paix de Dieu dans nos combats. Merci parce qu'elle nous aide à séparer ce qui est dans nos vies, ce qui est spirituel, ce qui est de terrestre, charnel. Merci de nous accompagner au quotidien par ta parole et merci de nous aider à l'aimer, à la porter sur nos cœurs, mais aussi à la confesser face à nous-mêmes, face à l'ennemi. Amen. Voilà, juste vérifier, Hervé, l'enregistrement, c'est bon. Voilà, j'aimerais reprendre ce que j'avais fait à moitié il y a 3 semaines. L'enregistrement n'avait pas marché, mais il y a quelques personnes voilà, qui ont dit « Ah, oh, c'était dommage !» Donc j'aimerais résumer mon propos de la dernière fois et puis l'étendre à un ou deux thèmes différents. On avait pris quelques textes dans le livre de Job. J'aimerais reprendre ce texte « Point de départ » et puis on en lira quelques autres et faire la synthèse de ce très beau livre. Ceux qui sont sensibles à la nature, à l'écologie. Job est un des livres, un des poèmes tournés aussi vers la nature. Il y a plein de descriptions de ce qui se passe dans la nature avant que l'homme introduise des machines, toute la technologie. Donc, c'est un livre qui parle voilà, au cœur de tous les amoureux de la création. En ce moment, le matin, je suis en train de lire un très beau livre. Alors, moi, je suis gourmand, j'aime les desserts, les gâteaux. Pour moi, ce livre, c'est comme un dessert, comme un gâteau. C'est un livre du pasteur Jean-Claude Chablot, qui a été à Genève et puis en Suisse. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les versets oubliés ». En fait, c'est surtout un livre... Alors, je ne sais pas si c'est que pour les garçons, d'autres pourraient le lire. C'est en fait un manuel de prédication, mais plutôt pratique. Et puis vraiment, moi je le déguste à la petite cuillère tous les matins. Mais j'aimerais peut-être prendre un texte avec vous dans Job, que peut-être vous n'avez jamais lu, et puis qui va... Moi j'ai reçu de la part du Seigneur de très beaux textes dans le livre de Job, dont un qui est cher à mon cœur. Je ne vous le livrerai pas en public, si une fois vous voulez savoir, vous me le demandez en privé. Mais un des plus beaux textes sur lequel je fonde ma vie, je l'ai découvert dans le livre de Job. Job au chapitre 14 et au verset 7. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine est vieillie dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt, il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent, se dessèchent. Ainsi l'homme se couche, ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Pour nous en Christ, les souffrances ne sont pas éternelles. Il y en a un temps sur la terre, et quand on lit l'histoire de Job, comme on dit, il a eu son lot, sa part, sa dose, peut-être plus que, plus que quiconque. Le livre de Job nous interroge, ce n'est pas un livre de philosophie, mais c'est un livre sur l'essentiel de la vie, l'essence de la vie. Plein d'interrogations, il ouvre des questions, des portes. Il essaie de donner une réponse maladroite à plusieurs. J'aimerais poursuivre ma lecture de quelques textes de ce livre. Et Job au chapitre 23, les trois premiers versets. Job prit la parole et dit « Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Si je savais où te trouver, si je pouvais arriver jusqu'à ton trône. » C'est quoi le chemin pour rencontrer Dieu ? Je me suis heurté à ce mur, y compris au début de ma conversion, en tapant du poing au Seigneur. Comment on... Elle est où la ligne directe ? Le 06, il est où ? Le 06, Dieu, il est où ? Au travers de la prière, de la louange, pas s'apitoyer sur son sort, pouvoir avoir une ligne dégagée, pouvoir tirer les nuages gris. Ce matin, il y avait un petit peu de nuages gris. Sur Jastel, où j'habite, il y avait une fine pellicule de brune. Est-ce qu'on peut percer ces choses-là ? Les versets 7 à 10 du même chapitre. « Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Et je serai toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord ? Je ne peux le voir. Se cache-t-il au Midi ? Je ne peux le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Bonne volonté, la propre justice ne suffisent pas pour rencontrer Dieu. C'est échec et mat. Se plaindre. Alors moi, je démarrais ma vie chrétienne avec beaucoup d'apitoiement sur moi-même. Seigneur, si tu savais, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis trop petit, je suis... Ouais, ok. Puis on a le CRM, ok, ça y est, la plainte, c'est fini. Comment est-ce que tu peux te redresser ? Je poursuis avec un texte dans Job au chapitre 9. Comme ça résume un peu ce livre. Et puis le questionnement de Job... qui a sûrement été le nôtre un jour. Job prit la parole et dit « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ?» Comment trouver cette justice dans le Christ ? Comment pouvoir plaider avec Dieu ? Quand l'Esprit vient et puis dit « Mais il y a tel point, telle chose dans ta vie. Comment effacer, comment laver ça ? Où est l'ardoise magique ? On écrit avec un petit crayon sur un truc avec du carbone, et puis après on peut effacer, on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Comment avoir une vie qui repose sur la justice de Christ ? Tes péchés sont pardonner. Tu peux te présenter devant moi, saint, juste, innocent, sans tache, irrépréhensible. Quand on lit ces textes dans Éphésiens ou ailleurs, on se dit, oh, Seigneur, comment c'est possible ? Comment tu peux effacer ? Où est ce lieu où je peux trouver la justice ? On lit encore les versets 20 à 23 du même chapitre. Suis-je juste, ma bouche me condamnera. Suis-je innocent, il me déclarera coupable. Innocent, je le suis. Mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car j'ai osé le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Et on lit encore le verset 33. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. qui est mon avocat, qui me représente auprès de Dieu, Père, Créateur, qui est tellement élevé, qui est l'arbitre. Nous pouvons découvrir qu'en Jésus-Christ, il y a un arbitre, un avocat. Il est l'interface, aujourd'hui ça parle, hein. C'est le langage informatique. Il est le logiciel, il est la souris que je peux cliquer et puis je peux demander à Dieu, voilà Seigneur, telle et telle chose, j'aimerais que te demander pardon, j'aimerais accepter ton pardon, j'aimerais vivre de ton pardon, j'aimerais poser ma vie sur ton pardon. Le pardon, c'est toute la vie. Toute la vie, matin, midi et soir. Simplement parce que, à cause de ce que nous sommes. Et c'est le constat de Job. Des fois, il dit, mais finalement, je suis juste, pourquoi ça ne marche pas avec toi? Puis d'autres fois, il dit, mais je suis tellement couvert de péché que, où chercher, où trouver, comment faire? Un seul médiateur dans le ciel, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ de Nazareth, personnage historique. Qui est de l'épaisseur qui a vécu, que l'on peut rencontrer en esprit et en vérité. C'est un tel mystère pour moi, étant enfant, jeune, adolescent, jeune adulte, mais Dieu, c'est quoi? Et puis ce choc de la vie intérieure, ce choc en esprit, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui suis là pour... te donner le pardon, quelque chose, réaliser qu'il y a un esprit qui vit en nous, qui est plus grand que nous, qui nous est donné par Dieu et que Dieu peut réveiller, que Dieu peut mettre debout. Un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine est vieillie dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Qu'on soit enfant, ado, jeune, l'âge de la maturité, dans l'âge un petit peu plus avancé, il y a de l'espérance. Quand j'ai démarré ma carrière de jardinier Ville de Lorient, au bout de 2-3 ans, il y avait un super alignement de cerisiers. Place des Lorraines, c'est devant l'église Saint-Louis. Ils avaient quoi? Une dizaine d'années, bien droit, bien en fleurs l'été. Et il est arrivé une fois qu'un 4x4, au lieu de mettre en marche arrière, est parti plein pot en avant. Le cerisier s'est couché. Toute une partie de l'écorce a été enlevée. Quand on est arrivé à 8h15 sur le site, qu'on a vu ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Mon collègue disait tout de suite, d'abord on prend une scie, on le coupe, il est mort, il est cuit, il est couché, il est abîmé. Puis je lui ai dit non, on lui laisse encore une chance, on va aller chercher un tuteur, le plus gros possible qu'on trouve, on va le redresser, quitte à demander un tractopelle ou quelque chose, et puis... On l'a redressé, j'ai recreusé au pied, bien remis les racines, je lui ai mis un gros tuteur. Cet alignement, là maintenant, il y a eu des rénovations, il a été enlevé, mais il a duré une trentaine d'années. Un arbre qui est couché, qui est épluché en partie, parfois ça peut ressembler à nos vies. Nos vies ont des chocs. Exprès ou pas exprès, quelqu'un, au lieu d'aller en marche arrière, nous rentre pile dedans et nous dit des choses très désagréables. La vie est ainsi faite que c'est difficile de la traverser sans être tamponné par des choses désagréables. Est-ce que quelqu'un va prendre soin de nous, va nous redresser, va remettre un tuteur, va remettre du terreau, de la terre au pied, va l'arroser, puis va en prendre soin? Est-ce que j'ai laissé l'amour de Dieu, l'amour de Christ, redresser ma vie, prendre soin de ma vie, pour que je puisse aller encore pendant des années. C'est pour moi aussi tout le langage de la résurrection. Repousser, se redresser, se mettre debout. reverdir, pousser des branches comme une jeune plante. Je commence à prendre de l'âge. Mais là aussi, régulièrement, j'essaie de me dire, oh là, Seigneur, merci de continuer à faire pousser l'arbre, merci de continuer à l'aider à verdir dans ma tête, en tous les cas, de pas vieillir trop vite. Être redressé, soigné par Dieu. Prendre soin de nos blessures, prendre soin des positions. Je disais l'autre fois, moi j'aime beaucoup la photo. Donc quand je trouve un arbre couché, près d'un petit cours d'eau, il y en a un gestel, et puis au fur et à mesure, il a repoussé des branches. Il y a une telle beauté. Hier, avec Christian, on était au bord de la Laïta, on a vu des chênes avec des troncs à peu près gros comme ici, avec toutes ces veines bien droites sur une quinzaine de mètres. Ah, c'est... Alors, il y a tout un mouvement aujourd'hui, suite des mouvements écolos, où c'est bien d'aller embrasser un arbre. Bon, après, comme on dit, chacun fait ce qu'il veut, hein, vous pouvez le faire aussi. Pour moi, il n'y a rien de mystique. Là, après, là, je suis plus les jardiniers, les pieds sur la terre et les mains dans la terre. Voilà. Mais après, il y a quand même il y a une beauté de la création. Et c'est vrai qu'un bel arbre, c'est beau. Un beau chrétien, une belle chrétienne. Un bel être humain, c'est beau. Il y a quelque chose de beau dans tout cela. Que ce soit l'apôtre Paul ou Ézéchiel, prophète, apôtre, ils ont vécu des choses très fortes avec Dieu. Et ils ont entendu ce mot, « Lève-toi, debout !» Je me levais et l'Esprit Saint entra en moi. Ça, c'est Ézéchiel, chapitre 2, vous pourrez le lire. Il me dit, lève-toi, debout. Le langage de la résurrection. Le Christ nous parle le langage de la résurrection, parce qu'il est la résurrection. Il est ressuscité d'entre les morts. Et chaque matin, quand le soleil se lève, il me dit, debout, lève-toi. Je me mis debout et l'Esprit Saint entra en moi. Quand j'entends cette parole, j'ai toujours une image. On avait un frère suisse qui était gardien de troupeau dans la vallée de Joux, pratiquement 1m90, 2m, 120 kg. Il avait la blouse bleue des vaches. Voilà. Et puis alors que dès qu'il parlait du Saint-Esprit, il faisait comme ça au-dessus de lui, même dans ses prières. Et puis l'image m'est restée. Debout, lève-toi. Et l'Esprit entra en moi et je me tins debout. L'Esprit Saint est là pour nous relever, guérir les blessures, panser les plaies. Et puis nous garantir de pouvoir vivre droit. Là aussi, je dis debout, je me levais, debout sur mes pieds. Je disais il y a 3 semaines, c'est être debout aussi dans la réalité de Dieu. Elle est plus forte, plus riche que la nôtre qui est propre. On se fait souvent des illusions sur nous-mêmes, sur le monde. La vraie réalité est en Dieu. Et c'est vrai que j'étais assez éthéré quand j'avais 20 ans, un peu distrait. Et petit à petit, j'ai beaucoup aimé ce métier de jardinier. J'ai planté tous les arbres qui sont la gare maritime de Lorient. Il y en a à peu près 150. Ils venaient directement d'Allemagne, des frênes, avec des mottes de 300 kg. Cerclés avec une toile et puis des mailles en fer. Donc pendant des semaines, j'ai dû les aligner sur pratiquement 400-500 mètres. Je vais avoir qu'une seule tête. Il fallait les prendre avec un tractopelle, bien les poser bien au milieu, bien les caler avec des baramines, couper ces tontines. C'est... comment est-ce que je m'aligne sur la réalité de Dieu pour pouvoir vivre droit, aligné. Bon, je ne sais pas si le Seigneur aime l'alignement, en tous les cas, voilà, quand c'est les arbres d'avenue, il faut que ce soit bien droit, bien aligné. Après, il y a des arbres de toutes les natures. Mais avoir la motte, nos racines, bien ancrées dans la réalité de Dieu. Le texte du fils prodigue, à la moitié, il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Mais voilà, je veux revenir vers toi et le père qui l'a vu de loin. » Le langage de la résurrection. Je me lèverai. Mais d'abord, il est rentré en lui-même et quelque chose s'est mis en mouvement. Et puis à un moment donné, il s'est dit, voilà, c'est quand même mieux chez mon père que là où je suis. Je me lèverai. Et il se leva et il alla vers son père. Son père, encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Est-ce que ma rencontre avec le Père Céleste est une rencontre de résurrection? Je vais me lever et je vais me réconcilier, je vais sauter dans les bras de mon Père. Il vaut mieux être embrassé par Dieu que d'aller embrasser un arbre. C'est plus une petite image, mais... Est-ce que régulièrement vous prenez le temps de dire voilà, Seigneur, merci de me serrer sur ton cœur. L'apôtre Jean dans la chambre haute est celui qui a posé sa tête sur le cœur de Jésus. Est-ce que je peux aussi avoir ce privilège? Quand je suis allongé, quand je fais la sieste, quand je suis dans un moment de détente, pour me dire, voilà, merci Jésus, merci Père Céleste, de me tenir près de toi, de me tenir serré près de toi. Merci de dresser ma vie, merci de me permettre d'être debout. Mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Pouvoir se retrouver en Dieu, jour après jour. Dans le texte de Job, tombé, abattu, coupé, penché, élagué. Les tempêtes, le vent, la foudre. L'arbre est soumis à toutes sortes d'aléas. On dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais les choses de la vie peuvent nous rendre plus fortes. J'aimerais lire avec vous un texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, les versets 14 à 17. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi il t'est dit, réveille-toi, toi qui dors. Bon, ça fait du bien de dormir, quand on a bien travaillé, quand on est fatigué, pour X raisons, ça fait du bien. Mais c'est bien aussi spirituellement de pouvoir avoir le réveil qui dit, hop là, ça, réveille-toi, là, il faut que tu lises l'Écriture, que tu aies prié, que tu entres dans la réalité de Dieu au quotidien. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est un texte d'Ésaïe 26. Relève-toi entre les morts. Ça peut être une parole que l'on s'applique à soi-même assez régulièrement pour éviter que le Seigneur le fasse par d'autres moyens. Pouvoir être réveillé devant Dieu, être comme un serviteur utile. Alors bon, c'est l'image hein, des serviteurs dans les palais, auprès des grands personnages qui se tiennent à gauche, à droite ou derrière, et puis qui sont simplement là pour ci ou pour ça. Mais est-ce que le Seigneur peut compter sur nous s'il a besoin de nous pour témoigner, pour telle chose, pour apporter une parole de réconfort, pour aller vers quelqu'un simplement en... Bon, même si on ne peut pas en ce moment faire des grands câlins, au moins taper les poings, taper le coude, et puis avoir cette attitude d'entourer ce que Christ m'a donné, que je puisse le retransmettre. J'aimerais lire encore un texte avec vous dans Hébreu, un texte pour s'encourager mutuellement. Hébreux 13, 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Au-delà des questions d'argent. Hein. Je vous relis, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est court comme phrase. Ça peut être une belle proclamation, une belle confession dans nos prières. Merci Seigneur parce que tu ne me délaisses pas et que tu ne m'abandonnes pas. Souvent on se dit, mais les autres prient tellement mieux. Prier l'écriture, même prier des courtes phrases, extraordinaire. Si on peut le faire au milieu du peuple de Dieu, pour beaucoup, c'est une grande victoire. J'ai commencé comme ça. On prend des temps de louange et puis voilà comment traverser, ouvrir sa timidité et puis dire voilà, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu es avec moi. Merci parce que tu ne me délaisses pas et tu ne m'abandonnes pas tous les jours de ma vie. Jusqu'à ce que j'entende la trompette finale et que je vive avec toi pour l'éternité. Allez, je prends le plaisir. Vous savez que moi, j'aime la pédagogie de la relecture. Je relis avec vous encore Job 14, verset 7. J'aimerais que ce soit imprimé. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine est vieillie dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia. Que ce texte puisse continuer de vous encourager même après ce temps de culte. Un texte dans Ésaïe, très beau texte sur les plantes. Alors bien sûr, hein, les arbres, c'est un thème que j'ai travaillé longuement, il y a très très longtemps, avec ce berger suisse. On a travaillé pendant quelques mois sur écriture et puis arboriculture. Ésaïe chapitre 11, les versets 1 et 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur un oui-dire, il jugera le pauvre avec équité, il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Mais il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Un rameau, un rejeton sortira du tronc et des racines. Nous avons le privilège, quand on rencontre le Christ Jésus, de rencontrer ce rejeton et cette racine. Et nous sommes nous-mêmes une émanation de cette racine, de ce tronc. Plongeons nos racines dans le Christ Jésus. Et on poussera bien droit. Et la vie de résurrection, des paroles de résurrection, des paroles de victoire, des paroles de bénédiction seront dans nos vies. Verset 10, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les peuples se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Hommes et femmes des nations, tournons-nous vers le rejeton d'Isaïe, vers le Christ Jésus. Il est comme une bannière pour nous. La gloire sera sa demeure. La gloire est notre demeure en Jésus-Christ. C'est vraiment un privilège extraordinaire. Enraciné en Christ, enraciné dans la parole, enraciné dans l'amour de Dieu, aussi enraciné dans l'Église. Tous ces lieux sont là pour nous, à notre disposition, pour pousser, pour se redresser, pour confesser des paroles de résurrection, des paroles de victoire, des paroles de bénédiction. J'aimerais lire, on peut lire ensemble, Éphésiens 3, versets 17-18, des paroles d'encouragement. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître tout l'amour de Christ. Enraciné et fondé dans l'amour. Dieu Père Créateur n'est pas qu'un Père fouettard qui nous a donné toutes sortes de règles pour nous embêter la vie, pour nous pourrir la vie. Certains voient Dieu comme ça. Hier soir, j'entendais à la télé une artiste témoigner combien elle était énervée que depuis le confinement, les églises soient restées ouvertes et que les salles de spectacle soient fermées. En ce moment, il y a des réactions fortes contre tout ce qui est spirituel, tout ce qui est christianisme, tout ce qui est la parole de Dieu. J'aime lire des thrillers historiques ou scientifiques. Vous seriez étonné du nombre qui sortent et qui remettent en cause la parole, le Christ, Israël, qui remettent en cause tous ces fondements. Alors, c'est fait de manière subtile, c'est écrit, c'est des romans policiers, des thrillers, mais les thèmes sont assez époustouflants. Ouais. Quelque part, l'ennemi essaye de grignoter et de détruire la racine et le tronc, tout ce qui a porté l'Occident et le monde depuis 2000 ans. Christ est un arbre de vie, et il est le bon arbre qui porte du bon fruit. On peut à sa suite le faire aussi, si vous avez du temps, hein, de pouvoir lire le psaume 1. Heureux comme un arbre auprès d'un courant d'eau. Son feuillage reste toujours vert, il porte du fruit. Quand on sera dans la gloire, la Nouvelle Jérusalem, il y aura une rivière avec un arbre qui servira à la guérison des nations. Nous avons déjà accès à cet arbre de vie en Jésus-Christ. Le fruit qui est en Jésus-Christ, non seulement il est bon pour nous, mais en plus il nous apporte de la délivrance, de la guérison. On lit un petit texte dans Ésaïe 53, je vous laisse un des textes pour ponctuer votre route, votre chemin, des textes connus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Rejetons d'une famille qu'on ne voit pas, qui est insignifiant, qui n'a aucune valeur. 2000 ans que Christ essaie de toucher les hommes, les femmes. Si on prend l'histoire d'Abraham, Joseph, déraciné, transplanté, Abraham a dû quitter le... juste entre la Turquie et Israël, et puis il a dû descendre jusqu'en Égypte, transplanté, mais il a une nouvelle vie. Fils de Jacob, le dixième, Joseph, vendu en Égypte, déraciné de la chaleur, de l'amour de son père, s'est retrouvé en bien mauvaise posture. Je vous lis la bénédiction de Jacob sur Joseph, Genèse 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Dieu a vu le sort de Joseph et a décidé de l'élever. C'est une figure, c'est un type de Christ. Des textes qui sont rassurants aussi pour nous. Dieu veut faire la même chose avec nous. Même si notre vie a été couchée, a été touchée par différentes choses difficiles. Encore deux textes, et puis on va s'arrêter là. Éphésiens chapitre 6, un texte connu. Les versets 13 et 14, 6, 13 et 14. Revêtez de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Être un arbre enraciné, tenir debout, tenir droit. Dans Corinthiens, il dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Réveille-toi, éveille-toi. J'aimerais conclure, voilà, ces images de l'arbre, avec Job 42. On n'a pas lu la fin encore, hein, pour savoir si l'histoire se termine bien. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Je vous lis encore les versets 12 et 13. « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chapeaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 ânes. Il eut 7 fils et 3 filles. Dieu l'a rétabli. Un arbre couché peut-il reverdir, repousser, se tenir droit ou pousser tout simplement autrement ? Je vous laisse avec ces réflexions sur le livre de Job, et puis que chacun puisse s'enraciner et pousser en Jésus-Christ. Amen.